Fanny, voici nos informations en français.
Vous écoutez Studio Tamani sous la radio chorale de Mopti, déploiement de la force Takuba, renforcement des capacités militaires, le retour de l'État et des administrations dans les zones fragiles. Ce sont entre autres points essentiels débattus lors du sommet du G5 Sahel tenu ce mardi à Nouakchott. Le bras de fer continue entre l'Union nationale des cinéastes du Mali et Boubacar Sidibé autour de l'appellation de la jeune association La Maison des cinéastes. Le ministère de la Culture s'est dit incompétent dans cette affaire. Les premiers feux tricolores voient le jour dans la région de Gao. Les habitants sont partagés entre satisfaction de voir un projet se réaliser et inquiétude pour le respect de ces feux tricolores. Voici pour les principaux titres de cette édition-là à la présentation à Assetou Kanté. Le renforcement des capacités militaires, le retour de l'État et des administrations dans les zones fragiles, la mobilisation des ressources pour le développement de l'espace G5 Sahel. Voici autant de points sur lesquels les chefs d'État du G5 Sahel se sont penchés le 30 juin dernier à Nouakchott. Selon les organisateurs, il s'agissait aussi de faire le point de la mise en œuvre de la feuille de route convenue lors du sommet de Pau en France tenu le 13 janvier 2020 et d'évaluer la situation au Sahel. Le point avec Idrissa Sakho.
La rencontre de Nouakchott intervient dans un contexte international marqué par des développements majeurs, notamment la persistance des attaques terroristes au Sahel et la détérioration de la situation sécuritaire en Libye. Pour les dirigeants du G5 Sahel, les risques sont réels sur la stabilité au Sahel et dans la sous-région. Selon eux, cette stabilité est aussi mise à rude épreuve par la pandémie de la COVID-19, dont l'impact économique et social se fait déjà cruellement sentir. Après avoir examiné la mise en œuvre de la feuille de route de Pau en lien avec l'évolution de la situation dans l'espace du G5 Sahel, les chefs d'État ont salué les efforts accomplis par l'ensemble des acteurs, aussi bien des États sahéliens que de leurs partenaires internationaux. Les chefs d'État du G5 Sahel ont plaidé pour un engagement militaire accru de la communauté internationale dans la lutte globale contre le terrorisme au Sahel. Ils ont exprimé leur reconnaissance à l'égard de l'appui apporté par la France et les États-Unis, ainsi que celui de l'AMINUSMA au bénéfice de la force conjointe du G5 Sahel. Ils ont aussi salué les perspectives de déploiement des premiers soldats de la force Takuba à l'été 2020, d'une brigade de la Grande-Bretagne en appui à l'aménagement en 2020 et d'un contingent de 3000 hommes de l'Union africaine. Par la même occasion, les chefs d'État ont apprécié la mise à disposition du Mali, du Burkina Faso et du Niger d'un soutien en vue de participer à la sécurisation des trois frontières de la zone Liptako. Les chefs d'État ont convenu que le prochain sommet se tiendra courant 2021 dans un pays du G5 Sahel.
Selon certains observateurs, il s'agissait surtout de montrer à travers ce sommet que la rencontre de Pau en janvier dernier n'était pas pour rien. Cependant, pour Ibrahim Maïga, chercheur à l'ISS de Bamako, ce qu'il faut retenir, c'est le fait qu'aucune autre force étrangère ne peut complètement assurer la sécurité sur le territoire du Sahel. Le chercheur propose plutôt la plus grande participation des forces de sécurité locales et la population. Ibrahim Maïga, chercheur à l'Institut d'études de sécurité de Bamako, joint par Adama Amadou Aïdara.
Le sommet de Nouakchott qui s'est tenu hier était un sommet de suivi, était un sommet dont l'objectif était de montrer que Pau c'était du sérieux, que ce n'était pas juste un moment. D'ailleurs, l'occasion a été saisie pour revenir sur un certain nombre de sujets qui ont marqué l'actualité sécuritaire de ces 6 derniers mois, dont la concentration des efforts dans le Liptako Gourma, cet espace à cheval entre le Mali, le Burkina et le Niger. Je crois qu'il faut surtout éviter de penser que d'autres acteurs, notamment les acteurs internationaux, vont venir défendre toutes les villes maliennes. Je crois que l'objectif des opérations Barkhane, du dispositif Takuba et d'autres dispositifs, c'est surtout de contenir la menace. Et l'objectif pour ces groupes, c'est justement d'essayer de se soustraire à ces mécanismes. Donc il faut s'attendre éventuellement à des débordements et à des déplacements de la part de ces groupes, non seulement plus vers le sud, mais aussi vers d'autres pays.
Réagissez à toutes ces informations en consultant nos statuts WhatsApp au 76 62 88 51 ou appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, a tenu ce mercredi un point de presse. Le mouvement réclame entre autres la dissolution de l'Assemblée nationale, la mise en place d'un gouvernement de transition avec un premier ministre choisi par le M5-RFP, l'adoption d'un pacte pour la stabilité sociale. Le mouvement exige par ailleurs la libération du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé. Le M5-RFP promet également la tenue de ces manifestations jusqu'à la satisfaction de leurs doléances et la protection prochaine manifestation est prévue pour le vendredi 10 juillet 2020. Direction Gao, où c'est la ferveur autour des premiers feux tricolores de la ville. Ces panneaux de signalisation sont visibles au niveau de 8 intersections. Sur place, les populations ne cachent pas leur joie et demandent aux usagers de les respecter. Notre correspondant sur place, Ali Ibrahim, a recueilli quelques réactions.
Ben, feu tricolore à Gao, c'est vraiment normal. Gao est une grande ville, une ville très moderne. Et Gao en avait besoin et nous remercions la fondation par le canal duquel les feux ont été installés.
Bien sûr, selon moi, si les gens les respectent comme ça se doit, ça diminue dans les accidents. Parce que quand quelqu'un vient de s'écouter et que l'autre s'arrête, lui laisse les passages pour qu'il puisse passer.
Comme Gao, c'est la première fois de voir ces feux tricolores. Donc les gens ont besoin des explications quand même au niveau des médias, au niveau des grains et partout.
J'étais surpris quand j'ai vu au niveau de ces feux tricolores comment les gens les respectent. Il peut y avoir des brebis galeuses. Ça ne s'échappe pas, mais vraiment, les gens respectent ça.
Ici à Bamako, le parquet de la commune 1 du district a reporté le procès du professeur Clément Damélé au 2 septembre 2020 pour raison de COVID-19. Cette audience, qui s'est ouverte ce mercredi 1er juillet vers 9h, a vu le lieu envahi par plusieurs personnes venues apporter leur soutien au professeur. Le 12 mai 2020, Clément Damélé, président d'une plateforme de lutte contre la corruption, avait été interpellé par la Direction générale de la sécurité d'État avant d'être mis à la disposition de la justice. Clément Damélé est aussi membre du mouvement du 5 juin qui réclame la démission du président de la République. À présent, la situation de COVID-19 au Mali. À la date de ce mercredi 1er juillet, les autorités sanitaires au Mali ont enregistré 21 nouveaux cas positifs de COVID-19, 9 patients guéris et 0 décès. Le pays compte au total 2202 cas confirmés, dont 1483 malades guéris et 116 décès. Comment le coronavirus se propage? Écoutons ce message de Studio Tamani.
Studio Tamani. Comment l'épidémie COVID-19 se propage-t-elle? Le virus se transmet par contact direct avec des gouttelettes respiratoires produites par une personne infectée. Par exemple, la personne tousse ou éternue. Il est aussi possible également d'être infecté en touchant des surfaces contaminées par le virus ou en se touchant le visage. Par exemple, les yeux, le nez ou la bouche. Le virus COVID-19 peut survivre sur des surfaces pendant plusieurs heures, mais de simples désinfectants peuvent le tuer. D'où la nécessité de désinfecter régulièrement les mains avec du gel hydroalcoolique ou de les laver avec de l'eau et du savon.
COVID-19, les enfants sont-ils touchés au même titre que les adultes? C'est le sujet que nous évoquons dans Actu Covid du jour. Actuellement, on n'a pas de chiffres officiels qui indiquent le nombre d'enfants atteints du coronavirus au Mali. Toutefois, selon une source médicale, une dizaine d'enfants avaient été admis dans un centre de prise en charge à Bamako. Pour les spécialistes de la maladie, le risque est certes minime du côté des enfants, mais l'inquiétude demeure chez les parents. Les explications avec notre reporter Khalifa Goïta.
Depuis l'avènement du coronavirus au Mali, les enfants sont les moins touchés par la maladie, constatent les autorités sanitaires. Pourtant, ils font partie des couches les plus exposées. Cela à cause du fait qu'ils ne sont pas en mesure de se protéger comme les adultes. Le coordinateur du deuxième centre de COVID-19 de l'hôpital du Pont-Jeu, professeur Yakuba Toloba, explique pourquoi il y a moins d'enfants atteints du coronavirus.
On a rapidement compris que les enfants font d'abord moins de COVID et ils font moins de complications. Ça, c'est lié tout simplement au récepteur. Le récepteur du virus est développé chez l'adulte, notamment au niveau du poumon et de l'intestin. C'est comme l'enfant a plus de force sur ce plan-là. C'est pas dans l'angle de l'immunité, mais c'est une question de récepteur.
Du côté des parents, si certains ne prennent pas la menace au sérieux, d'autres en revanche craignent pour leurs enfants. Ces derniers exigent le respect des mesures de protection contre la maladie. C'est le cas d'Alousseni Touré, fonctionnaire à la retraite.
Après le conseil, j'ai acheté les gels, plus du savon et le grand récipient dans lequel les gens se lavent les mains. Tout le monde sans exception dans ma cour.
Il faut signaler que dans un rapport, l'OMS a déploré les retards acquis dans la vaccination de millions d'enfants en Afrique contre les maladies infantiles. Selon l'organisation, cela pourrait être fatal pour beaucoup de ces enfants.
L'actualité dans la région nous conduit à Panamba où le préfet a remis ce mercredi 18 000 masques lavables aux différents présidents communaux de la jeunesse du cercle. Cette donation s'inscrit dans le cadre de la prévention et la lutte contre la COVID-19. Le préfet a invité la jeunesse à s'impliquer dans la sensibilisation de la population sur le port du masque. À présent, la question d'auditeur puis sa réponse avec professeur Adamandiko. Il est le responsable du centre de prise en charge de COVID-19 de l'hôpital dermatologique de Bamako.
Bonjour professeur. Autrefois, on présentait des vœux à une personne qui éternuait. Pourquoi maintenant les gens s'en méfient? Est-ce à dire c'est risqué d'éternuer et de tousser dans la masse?
Quand quelqu'un qui éternue maintenant, il est infecté. Vous êtes là, vous n'êtes pas protégé. Quand il tousse et ses efforts de tout, là il projette des gouttelettes. Et ces gouttelettes sont chargées de matériel viral. Et ces matériels viraux, quand vous le respirez, vous faites infecter. Quand cette maison est ventilée, si vous n'êtes pas aussi protégé, vous devez propager ça dans la salle.
Ainsi, prend fait Actu COVID d'aujourd'hui. À demain pour d'autres infos. N'oubliez pas, pour vous protéger du coronavirus, lavez régulièrement vos mains avec du savon ou désinfectez-les avec des solutions hydroalcooliques.
Je vous l'annonçais dans le titre, l'Union nationale des cinéastes du Mali, UNCM, continue de s'opposer à l'appellation la Maison des cinéastes MCM, que s'est baptisée une jeune association. Selon l'UNCM, cette association ne représente pas les cinéastes du Mali. Quant aux acteurs de la MCM, eux ne comptent pas changer de nom sauf sur une décision de justice. Le ministère de la Culture s'est dit incompétent dans cette affaire. Lundi Moussa Diallo nous en dit plus.
Ce lundi 29 juin, nous arrivons chez le scénariste Boubacar Sidibé au quartier Djikoroni Para, en plein tournage avec une équipe d'une dizaine de personnes dans son salon. Il nous accorde un temps à la question de savoir s'il va vraiment abandonner le nom de son association, la Maison des cinéastes du Mali. Monsieur Sidibé répond.
C'est une loi qui a créé la Maison des cinéastes du Mali. C'est une loi qui a créé l'Union nationale des cinéastes du Mali. S'il y a des gens qui trouvent que normalement nous ne devons pas exister juridiquement, ils peuvent aller se plaindre. Si un juge compétent nous dit de changer, où est le problème? On change. Je ne ferai jamais d'action contre l'Union nationale des cinéastes du Mali.
Pourtant, cette appellation dérange les membres de l'Union nationale des cinéastes du Mali. Ceux-ci entendent d'ailleurs user de tous les moyens pour avoir gain de cause. C'est pourquoi ils ont saisi le ministère de la Culture. Mais celui-ci s'est dit incapable de trancher et invite les deux parties au dialogue. Diara Sanogo Dite Bougounieri, conseillère technique au ministère de la Culture, est chargée des actions culturelles.
C'est l'UNCM qui nous a écrit pour nous dire qu'il y a problème.
Mais qu'est-ce que le ministère va trouver comme solution concrètement?
Le ministère ne peut pas trouver la solution. On ne peut pas vraiment être partisan d'un camp ou de l'autre camp. Nous sollicitons un terrain d'entente. Nous, on ne va pas dire forcément va changer le nom de ton association. Nous n'avons pas ce droit, sincèrement.
En attendant, c'est un dialogue de sourds entre les deux parties qui risque de se retrouver devant les tribunaux.
Sidio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Actualité régionale dans la brousse de Pourabomba, commune de Sokura, cercle de Bankas. Deux hommes ont été capturés par des hommes armés non identifiés. L'incident s'est passé le mardi dernier. Les ravisseurs ont tué un et le second est libéré. Auparavant, le vendredi 26 juin, cinq jeunes garçons ont été enlevés par des hommes armés non identifiés dans la brousse de Dialaï, commune de Dialassagou. Quatre d'entre eux ont été libérés le lendemain. Et le dernier est toujours aux mains de ses ravisseurs. À noter que des enlèvements sont fréquents dans cette zone dite Samori. C'est un territoire qui couvre les communes de Baye, Sokura et Wankoro jusqu'à la frontière du Burkina Faso. Le préfet de Diré et ses adjoints se sont repliés hors de la ville. Cette situation intervient après l'appel du syndicat autonome des administrateurs civils et le syndicat des travailleurs du ministère de l'administration territoriale à ses militants des zones d'insécurité à regagner les localités plus sûres. Il faut rappeler que le préfet central de Diré et le sous-préfet de la commune rurale de Daga ont été déjà victimes d'enlèvement le 17 juin dernier. Un projet pour promouvoir le dialogue, la paix et la tolérance communautaire a été lancé ce mardi à Gao. Cette initiative de l'ONG MZC concerne les femmes des sept communes du cercle de Gao. D'une durée de 2 ans, elle permettra d'une part la création d'activités génératrices de revenus, mais également la mise en place des activités de sensibilisation pour appuyer les femmes dans leur développement. Dans quelques minutes, minutes, ce sera le Grand Dialogue. Bonsoir Imrana Kilumaiga. Ce soir, vous allez aborder quel sujet?
Bonsoir à Setou. Le débat de ce soir porte sur la sécurité. Quelles sont les limites de réponse face à la menace sécuritaire? Et nos invités sont Ibrahim Maiga de l'Institut d'études de sécurité, Mahamadou Diouara, directeur du cabinet Gaïa, Fatoumata Idrissa Maiga, chargée de programme paix et sécurité à Wildaf.
Merci et très bon débat. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et n'oubliez surtout pas de vous informer et suivez les conseils de votre médecin pour éviter le coronavirus. C'est